Bonsoir à tous. Merci à tous d'être présents et grand merci Jean-Daniel pour ton invitation. Donc, je suis extrêmement heureux et honoré d'avoir l'occasion de présenter mes travaux en ce lieu. Alors, dans le prolongement du cours de Jean-Daniel sur les algorithmes randomisés, je vais vous présenter quelques aspects des probabilités géométriques. Tout d'abord, un petit peu de publicité. Les probabilités géométriques, c'est un domaine qui est suffisamment porteur en France actuellement pour être l'objet d'un groupement de recherche au CNRS qui existe depuis 2012, qui s'appelle GDR Geosto, et qui comprend aux alentours de 150 membres. Voilà, alors, faire des probabilités géométriques, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire étudier des figures géométriques, alors issues en général de la géométrie euclidienne, et qui ont été générées de manière aléatoire. Alors, les variables aléatoires qui vont intervenir en probabilité géométrique, bah, ce sont des objets classiques de la géométrie euclidienne, un point, une droite, un triangle, une boule, un polygone, un polyèdre convexe. Et ce domaine, comment est-il né? Eh bien, on considère qu'il est apparu avec des mathématiciens qui, au fil des siècles, ont posé des casse-têtes géométriques. Alors, j'en ai sélectionné trois, qui sont les plus représentatifs à mon sens. Le problème de l'aiguille de Buffon, le problème des quatre points de Sylvester et le problème de la corde de Bertrand. Alors, en 1733, Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, a posé le problème suivant. Donc, vous avez un parquet, ben, comme celui-là, un parquet avec des lattes de bois, qui ont une largeur de taille constante. Et sur ce parquet, donc le parquet, le voilà. Et sur ce parquet, vous allez jeter une aiguille. Une aiguille dont la longueur va être plus petite que la largeur des lattes de bois. Donc vous avez des rainures. Et la question, c'est, une fois que j'ai jeté l'aiguille par terre, est-ce qu'elle va rencontrer ou non une des rainures du parquet? Donc, celle-ci, OK. Autorisée, celle-ci, c'est une configuration interdite. Et on se demande à quelle probabilité l'aiguille que j'ai jetée intersecte une des rainures du parquet. Et c'est en 1777, dans son histoire naturelle, générale et particulière avec présentation de cabinet du roi, que Buffon a fourni une solution à ce problème. Et cette solution, elle est restée fameuse pour deux raisons. D'abord parce que, à la connaissance des probabilistes, c'est la toute première fois que pour faire un calcul de probabilité, on a dû écrire une intégrale et calculer une intégrale. Et il y a une seconde raison pour laquelle cette résolution est fameuse, c'est parce que le calcul de la probabilité est deux fois la longueur de l'aiguille divisée par la largeur de la latte de bois fois pi. Le nombre pi apparaît dans le calcul de la probabilité. Et ceci signifie que si je jette un grand nombre d'aiguilles, que je réitère l'expérience, que je compte le nombre d'aiguilles qui ont touché la rainure, je divise par le nombre total d'aiguilles que j'ai jetées, et que j'utilise la loi des grands nombres, eh bien, j'obtiens un moyen de calculer une valeur approchée du nombre pi par une méthode probabiliste. Alors, un petit peu plus tard, ce sont les Anglais qui sont entrés en piste avec, en 1964, un problème qui est dû à James Joseph Sylvester, qui a été publié dans The Educational Times. C'est ce qu'on appelle le problème des quatre points de Sylvester, qui est le suivant. Vous jetez quatre points aléatoirement et vous vous interrogez sur la position relative de ces quatre points. Sont-ils les sommets d'un quadrilatère convexe ou non? Donc cette configuration est autorisée. En revanche, cette configuration est interdite parce que dans ce cas, j'ai un des points qui est à l'intérieur du triangle formé par les trois autres. Et la question qu'a posée Sylvester, c'est eh bien, avec quelle probabilité j'ai une configuration autorisée, j'ai un vrai quadrilatère convexe. Et alors, ce sont les Anglais qui s'y sont rapidement intéressés, qui ont fourni des résultats, calculs à l'appui, 1 demi, 2 tiers, 3 quarts, 5 huitièmes, 1 moins 35 sur 12 pi 2. Bon, autant dire que Sylvester en a conclu qu'il n'y avait pas de solution déterminée à son problème. Et un petit peu plus tard, retour en France, en 1888, Joseph Bertrand dans son calcul des probabilités, a lui aussi posé un problème de probabilité géométrique. Alors, vous vous donnez un cercle, et à l'intérieur de ce cercle, vous considérez un triangle équilatéral inscrit à l'intérieur du cercle. Donc si le cercle est de rayon 1, la longueur du côté du triangle équilatéral est racine de 3. Ensuite, Bertrand prend au hasard une corde de ce cercle. Alors qu'est-ce que c'est qu'une corde ? C'est un segment qui va relier deux points choisis sur le cercle. Donc voilà une corde. Et il pose la question suivante, avec quelle probabilité cette corde sera de longueur plus grande que la longueur de l'arête du triangle équilatéral qui est contenu dans le cercle, qui est inscrit pardon, dans le cercle. Donc celle-ci est autorisée et celle-ci est interdite. Et trois méthodes parfaitement rigoureuses ont fourni trois résultats différents à ce problème de Bertrand. Et c'est d'ailleurs pourquoi on parle encore aujourd'hui de paradoxe de Bertrand. Donc on a les trois résultats, un demi, un tiers, un quart. Et en fait, dans les deux problèmes, là, Sylvester et Bertrand, avec nos yeux d'aujourd'hui munis de la théorie moderne des probabilités, on comprend tout à fait d'où vient le souci, d'où vient ce paradoxe. C'est que le modèle probabiliste sous-jacent à ces deux questions n'est pas fixé. Quand Sylvester dit « je jette 4 points aléatoirement », qu'est-ce que ça veut dire « jeter 4 points » ? Ce n'est pas déterminé. Une possibilité serait de dire « ok, je me donne un domaine borné, et à l'intérieur de ce domaine, je me donne des points uniformément répartis dans le domaine et indépendants ». Donc ça, c'est une manière de définir un modèle, mais dans ce cas, vous comprenez que le calcul de la probabilité va dépendre de la forme du domaine dans lequel j'ai jeté mes points. Et c'est pourquoi il y a des résultats aussi différents les uns des autres. Dans le cas de Bertrand, le paradoxe vient aussi du fait que le modèle n'est pas fixé. Comment choisit-on une corde aléatoirement ? Soit je vais commencer par choisir l'orientation de la corde, et ensuite je vais choisir indépendamment et uniformément la distance du centre du cercle à la corde. Ou alors je vais me donner deux points au hasard indépendants sur le cercle, ou encore je vais choisir uniformément dans le disque la projection orthogonale du centre du cercle, sur la corde. Donc c'est trois manières différentes de générer une corde aléatoire. Et c'est pourquoi on obtient les trois résultats, un demi, un tiers, un quart. Donc vous comprenez au travers de ces casse-têtes mathématiques que finalement, il y avait besoin de construire une théorie des probabilités géométriques. Et celle-ci s'est fortement appuyée sur la théorie des probabilités qui est due à Kolmogorov, qui date de 1933, et elle s'est également appuyée sur le développement de la géométrie intégrale et convexe. Et donc, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de définir des modèles probabilistes tels que ceci. Je vais laisser dans un coin. Ah, oui, voilà. Donc, je précise que toutes les simulations que je vais présenter aujourd'hui ont été réalisées à l'aide de la bibliothèque logicielle SIGEL, qui est une des grandes réalisations de l'INRIA, de l'équipe de Jean-Daniel. Et je crois que vous en entendrez parler lors du prochain séminaire. Il y aura un exposé spécifique sur cette bibliothèque logicielle SIGEL. Mais vous pouvez déjà quand même observer ce qu'elle permet de faire. Donc sur la gauche ici, j'ai commencé par jeter un nuage de points aléatoires. Bon, ça n'a pas d'importance, mais c'est un nuage gaussien. Et j'ai ensuite construit ce qu'on appelle l'enveloppe convexe de ce nuage. Donc, c'est une notion que vous commencez à bien connaître grâce au cours de Jean-Daniel. C'est simplement le plus petit ensemble convexe qui contient les points du nuage. D'accord ? Donc c'est le plus petit polyèdre convexe possible qui va contenir tous les points bleus ici. Sur la droite, c'est une mosaïque de Voronoi. C'est une partition de l'espace, donc ici du plan, en polygone convexe, chaque point, mais je vais revenir sur la construction un petit peu plus tard, chaque point que j'ai jeté au départ définit une cellule qui lui est associée. Voilà. Et une motivation pour le développement de la théorie des probabilités géométriques, c'est aussi que, à peu près dans la deuxième partie du XXe siècle, on s'est rendu compte que ces modèles spatiaux aléatoires, ils avaient une utilité, ils intervenaient naturellement dans un cadre applicatif, en particulier en sciences expérimentales, en biologie, géologie, physique des matériaux, même télécommunications. Et par ailleurs, je me dois aussi de souligner le lien profond qui existe entre probabilité géométrique et géométrie algorithmique. bien en particulier les probabilités géométriques pourront servir d'aide pour développer des algorithmes qui s'appuient sur les probabilités, des algorithmes randomisés. Et c'est surtout sur ce point-là que je vais insister dans la suite de l'exposé, les probabilités géométriques peuvent aider à analyser l'efficacité des algorithmes, à calculer en particulier une complexité moyenne d'algorithmes de géométrie algorithmique. Voilà. Alors vous voyez aussi que sur ces deux modèles, il y a une brique élémentaire qui est essentielle, c'est comment est-ce que je jette des points aléatoirement. Que ce soit à gauche ou à droite, j'ai commencé par jeter des points avant ensuite de faire une construction géométrique qui, elle, est parfaitement déterministe. L'aléa ne vient que des points que j'ai jetés aléatoirement au départ. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce que je jette des points au hasard? Donc c'est ce qu'on appelle la notion de processus ponctuel, c'est-à-dire que je vais me donner un ensemble de points de l'espace, donc RD en dimension D, le plan ici sur mes simulations, localement fini, c'est-à-dire que dans chaque domaine borné de l'espace, j'ai un nombre fini de points. Donc ça arrivera avec probabilité 1. Et vous voyez que, au travers de ces trois simulations, j'ai des comportements radicalement différents. Sur la gauche, ici, j'ai jeté des points sans interaction. Donc si je me cantonne à ce qui se passe à l'intérieur de la fenêtre, ils sont indépendants et ils sont uniformément distribués dans la fenêtre. Ici, au contraire, il y a attraction, il y a un effet d'attraction sur les points, ce qui fait qu'ils se réunissent en paquets, on dirait en cluster, si j'osais utiliser un mot d'anglais. Au contraire, ici, par rapport. Donc là, c'est un processus qu'on appelle de Matern cluster. Bon, j'en parlerai pas davantage dans l'exposé, mais je le dis pour information. Ici, au contraire, c'est un processus de Matern hardcore où j'ai répulsion entre les points. Ils s'éloignent les uns des autres, ce qui fait qu'au bout du compte, j'ai une répartition des points qui est même plus régulière que la répartition des points que j'obtenais quand je les avais jetés indépendamment et uniformément. Voilà. Et dans la suite de l'exposé, je vais me contenter de parler d'un jet de points qui sont sans interaction et homogènes. Alors, j'ai une manière naturelle de le faire, donc qui est ici décrite sur la gauche, c'est construire ce qu'on appelle un processus binomial, c'est-à-dire je commence par me donner une fenêtre, donc j'ai pris pour simplifier un corps convexe de RD, c'est-à-dire un ensemble convexe, borné, fermé, et d'intérieur non vide. Et donc voilà ma fenêtre, et dans cette fenêtre, je me donne une suite de variables indépendantes, identiquement distribuées, toutes uniformes dans cette fenêtre. Et ensuite, je coupe la suite, je ne prends que les n premières variables. Donc ça me donne un processus ponctuel. Et ce processus ponctuel a deux propriétés. Tout d'abord, le nombre de points qui tombent dans une zone donnée B1, ce que j'appelle un borélien de ma fenêtre B1, ce nombre de points, il suit une loi binomiale, parce que chaque point séparément, il a une probabilité qui est égale au volume de B1 divisé par le volume total d'être dans B1, et ces événements, avoir le premier point dedans, avoir le deuxième point dedans, etc., étant indépendants, j'obtiens une variable binomiale, d'où le nom de processus binomial. Cependant, si je prends plusieurs zones de ma fenêtre qui sont disjointes, eh bien, je me rends compte que le nombre de points qui tombent dans chacune des zones, ça me donne des variables aléatoires qui ne sont pas indépendantes. Pourquoi ? Parce que si je sais déjà que là, j'ai, si je compte bien 5 points, ça me donne une information sur combien de points il y a dans les autres sous-zones de ma fenêtre, parce que je sais qu'au total, j'en ai n. J'en ai par exemple 10. Donc ça, c'est un premier problème de ce processus binomial. Je n'ai pas indépendance quand je regarde ce qui se passe dans des sous-domaines disjoints. Et il y a un autre problème, c'est que j'ai dû me donner une fenêtre au départ pour construire des variables uniformément réparties. Et il n'existe pas de loi uniforme sur tout le plan ou sur tout l'espace. Donc je n'ai pas de manière simple de généraliser ce processus binomial à un processus de points qui vivrait directement dans l'espace tout entier. La solution, donc pour pallier ces deux problèmes, c'est de définir ce qu'on appelle un processus de Poisson, c'est-à-dire l'unique possibilité qu'on a de résoudre ces deux problèmes. On commence par se donner un réel positif qui est l'intensité du processus, c'est-à-dire le nombre moyen de points qui vont tomber par unité de volume, par unité d'air ici sur le dessin. Et ensuite, mon processus ponctuel de Poisson, ce sera un ensemble localement fini, donc tel que dans chaque domaine borné, j'ai un nombre fini de points avec probabilité 1, et il va vérifier deux propriétés. D'une part, que le nombre de points qui tombent dans un domaine fixé de volume fini, c'est une variable de Poisson qui a pour moyenne lambda, qui est l'intensité, fois le volume du domaine, pardon. Et d'autre part, si maintenant je prends des sous-domaines 2 à 2 disjoints, eh bien, ce qui se passe dans chacun de ces sous-domaines, les nombres de points qui tombent dans chacun de ces sous-domaines deviennent indépendants. Donc, si je fais la comparaison avec le processus binomial et je regarde simplement l'intersection dans une fenêtre, la seule différence, c'est qu'au lieu de jeter un nombre fixé de points au départ, j'ai pris un nombre aléatoire de points qui est poissonien et ensuite je les ai jetés indépendamment et uniformément dans ma fenêtre. Et finalement, le résultat, c'est que j'ai un processus qui est défini sur tout l'espace et en plus, j'ai indépendance sur ce qui se passe dans des domaines 2 à 2 disjoints. Donc, il se trouve que la plupart des résultats qui sont établis en probabilité géométrique, ils se basent plutôt sur le processus de Poisson parce qu'on a cette force de l'indépendance qui simplifie grandement les calculs. Parfois, on peut avoir envie de revenir au processus binomial quand j'ai jeté un nombre fixé de points. Ça n'est jamais, enfin, en général, ce n'est pas évident du tout de passer d'un résultat démontré par un processus de Poisson et de au même résultat démontré par un processus binomial. Il y a toujours un travail qui est loin d'être trivial. Voilà. Donc, j'en viens à présent au plan de mon exposé. Je vais présenter deux modèles donc, que je vous ai déjà montrés sur le transparent précédent, des modèles d'enveloppe convexe aléatoire et un modèle de mosaïque de Poisson de Voronoi que je me contenterai de regarder en dimension 2. Voilà, et ce dont je vais parler est basé sur plusieurs travaux en commun avec un certain nombre de personnes, Joseph Jukic de Lehigh University aux États-Unis, Thomas Schreiber de l'Université de Toruń, Yann de Michel et Natalia Henriquez de l'Université de Paris-Nanterre. Donc les deux premiers, c'est pour la partie enveloppe convexe, et les deux derniers, c'est pour la partie mosaïque de Poisson-Voronoi. Alors, enveloppe convexe aléatoire, je vais présenter le modèle, vous faire un état de l'art des résultats connus, présenter nos nouveaux résultats qui sont des calculs de variance limite et donner quelques indications de démonstration de ces résultats en me contentant de parler de la dimension 2 pour cet exposé et en particulier des deux cas où je jette les points dans un disque et dans un carré. Alors, comment construire mon modèle d'enveloppe convexe aléatoire? Je commence par me donner donc, un corps convexe de RD. Donc, je rappelle que c'est un ensemble convexe compact de RD qui est d'un tailleur non vide. Je me donne ensuite une suite de variables indépendantes indiquement distribuées, uniformes à l'intérieur de ce convexe compact. Et ensuite, je prends l'enveloppe convexe des n premières. Donc ça, c'est le modèle binomial. Voilà. Donc deux simulations dans le disque et dans le carré. Vous constatez que si j'augmente la taille de l'échantillon, je récupère donc à l'intérieur de mon convexe mère qui lui est déterministe, qui est fixé une fois pour toutes, je récupère un polygone convexe, ici en dimension 2, qui est aléatoire. Et visiblement, plus la taille de l'échantillon augmente, plus ce polygone convexe aléatoire se rapproche de la forme initiale de mon convexe mère. Et tout l'enjeu va être de comprendre à quelle vitesse il s'en rapproche. Est-ce que l'approximation est bonne? Ensuite, je peux passer à la version poissonienne du modèle. Au lieu de jeter un nombre fixé de points, j'en jette un nombre poissonien à l'intérieur de mon convexe compact. Donc, là, je l'ai écrit en prenant l'intersection d'un processus poissonien avec K. Voilà. Et donc maintenant, j'obtiens K lambda indexé par l'intensité du processus, c'est-à-dire le nombre de points par unité de volume. Alors, que peut-on dire sur ces modèles d'enveloppe convexe aléatoire? Alors, je vais m'intéresser à certaines quantités donc réelles qui vont me permettre de mieux comprendre la géométrie de ce polyèdre aléatoire. Évidemment, le nombre de points extrémaux, c'est-à-dire le nombre de points de mon échantillon de départ qui sont sur la frontière de l'enveloppe convexe. Le volume, et plus particulièrement le volume défaut, c'est-à-dire la différence entre le volume du convexe mère et le volume de l'approximation polyédrale à l'intérieur. Et plus généralement, le nombre de faces k-dimensionnelles, c'est-à-dire si je prends k égale 0, je retombe sur le nombre de points extrémaux, c'est pour ça que je l'ai appelé f0. Si je prends k égale 1, je tombe sur le nombre d'arêtes qui sont sur la frontière dans la lobe convexe, etc. Des moins 1, j'obtiens le nombre d'hyperfaces. Alors, si je reviens à mon problème de Sylvester dont je vous ai parlé au tout début, donc je vous rappelle, la question c'était je jette 4 points à l'intérieur d'un convexe mère K, avec quelle probabilité ces 4 points sont les sommets d'un quadrilatère convexe. Donc en fait, il faut que je calcule cette probabilité de F0. Alors quand je rajoute une barre au-dessus de K, ça veut dire que j'ai pris le modèle binomial. Quand il n'y a pas de barre, c'est le modèle poissonien. Donc là, j'ai jeté exactement 4 points et je regarde la probabilité que le nombre de sommets de l'enveloppe convexe soit égal à 4. Donc ça, c'est le problème de Sylvester. Évidemment, il n'a pas demandé pour 3 points, parce qu'en dimension 2, quand je jette 3 points, avec probabilité 1, ils sont les sommets d'un triangle. Donc il n'y a pas de problème. Pour 4, j'ai mis deux exemples de calcul, le cas du triangle et le cas du disque, donc 2 tiers à moins 35 sur 12 pi 2. Et ce n'est pas un hasard si je choisis ces deux exemples, c'est parce qu'en fait, Blaschke, en 1921, a montré que ce sont les deux cas extrémaux. Il y a un résultat de monotonie sur cette probabilité-là qui vous dit qu'elle est toujours, quel que soit le convexe mère, elle est toujours comprise entre la probabilité calculée dans le cas de triangle, 2 tiers, et la probabilité calculée dans le cas du disque, 1-35 sur 12 pi 2, qui est aux alentours de 0,70. Donc vous voyez qu'elle se promène entre 0,66 et 0,70. Elle ne bouge pas beaucoup, finalement, en fonction de la forme du convexe mère. Alors, il y a un autre résultat à n fixé qui est dû à Wendel de 62. Si je prends un convexe mère qui est symétrique par rapport à l'origine, c'est-à-dire invariant si je fais une symétrie centrale par rapport à l'origine, eh bien, dans ce cas, je peux calculer la probabilité que l'origine soit ou ne soit pas, ça revient au même, dans mon convexe aléatoire. J'ai un calcul qui est purement combinatoire, qui s'appuie sur la formule de Schlefly, qui vous fournit le nombre de composantes connexes obtenues quand je prends le complémentaire d'un nombre fixé d'hyperplans dans RD. Voilà, et donc en particulier, ça me dit que la probabilité que l'origine ne soit pas dans l'enveloppe convexe, elle décroît exponentiellement vite vers zéro lorsque la taille de l'échantillon tend vers l'infini. Enfin, il y a un très joli résultat, une identité due à Effron qui date de 65, qui vous fournit un lien direct entre le nombre moyen de sommets de l'enveloppe convexe, quand j'ai jeté n points, c'est-à-dire le nombre de points extrémaux moyens, au volume de l'enveloppe convexe quand j'ai jeté n-1 point. En fait, quand je jette n points, le nombre moyen de sommets est inférieur à n, ça c'est normal, c'est n fois quelque chose qui est inférieur à 1. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est simplement, ayant fixé la position des n-1 premiers points, si je jette le nème, c'est la probabilité que le nème ne tombe pas dans l'enveloppe convexe engendrée par les n-1 premiers. Voilà. Donc finalement, je comprends que si je veux savoir calculer le nombre de moyens de points extrémaux, il suffit que je sache calculer le volume, et le volume moyen est réciproquement. Et en particulier, quand je vais faire de l'asymptotique, il me suffira d'avoir de l'asymptotique sur un comportement asymptotique sur le nombre moyen de sommets pour avoir le comportement asymptotique du volume défaut. Alors pourquoi je parle d'asymptotique? Parce que en fait, ce que je vous ai montré là sur ce qu'on peut faire à n fixé, c'est à peu près tout ce qu'on sait faire. Ça devient très vite impossible de faire des calculs explicites à n fixé. Donc, dans la suite, on va faire de l'asymptotique, c'est-à-dire lorsque la taille de l'échantillon tend vers l'infini, n ou lambda, et on va plutôt regarder lambda, le cas poissonien, parce que c'est plus facile. Alors donc la première raison, c'est parce qu'on est limité par nos possibilités à n fixé, on ne sait pas faire. Il y a encore plein de choses qui sont ouvertes. D'autre part, il y a cette idée d'approximer, de faire une approximation pardon, du convexe mère K par un polyèdre à l'intérieur et d'estimer la qualité de cette approximation. D'autre part, je vous ai parlé au tout début du lien avec la géométrie algorithmique. Faire de l'asymptotique, ça nous donne une information sur l'analyse en moyenne de la complexité des algorithmes de construction d'enveloppes convexes. On peut imaginer que si je jette des points indépendamment dans le convexe mère K et uniforme dans le convexe mère K, eh bien, le nombre moyen de points extrémaux lorsque n tend vers l'infini devrait s'approcher à peu près de la complexité de l'algorithme de construction dans l'enveloppe convexe. Cela étant, récemment, il y a des gens qui ont pensé autrement, qui ont dit en général, les données sur lesquels on va appliquer une construction d'enveloppe convexe ne sont pas totalement hasardeuses. Il y a une structure sous-jacente à ces données et ça peut être finalement plus intéressant de regarder le calpir ou de regarder ce qu'on appelle une complexité lissée. Donc là, c'est un exemple où je suis parti de donner des points qui sont au départ en position convexe, c'est-à-dire qu'ils sont tous extrémaux, ils sont tous sur la frontière de leur enveloppe convexe, et on les bruite légèrement, c'est-à-dire qu'on remplace les points, donc les sommets de ce polygone convexe, par des points aléatoires qui sont dans des disques, qui sont uniformes dans des disques centrés autour des sommets du polygone de départ. Donc ce sont les points rouges. Et ensuite, je regarde l'enveloppe convexe de ces points rouges formés, et la question, c'est quel est le nombre moyen de points extrémaux de cette nouvelle enveloppe convexe qui est aléatoire. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été réalisé récemment par De Villeur, Gliss, Goauk et Thomassé en 2016. Voilà. Donc j'en dirai pas plus, mais simplement vous faire un lien avec l'analyse de complexité, vous expliquer que c'est toujours intéressant de faire l'analyse en moyenne, mais que bien sûr, en géométrie algorithmique, on peut avoir besoin d'une complexité plus fine. Alors, donc j'en viens maintenant à l'état de l'art sur les problèmes asymptotiques, c'est-à-dire quand la taille de l'échantillon tend vers l'infini. Donc j'ai toute une série de variables aléatoires, pardon, nombre de points extrémaux, volume, nombre de faces quatre-dimensionnelles. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur ces variables aléatoires? Première chose à faire, c'est d'essayer de calculer l'espérance. Donc on n'a pas de calcul explicite. En revanche, il y a un travail fondateur qui est dû à Alfred Rigny et Robert Zulanke, qui date de 1963, et qui fournit le comportement asymptotique du nombre moyen de sommets, du nombre de moyens de phases quadimensionnelles, du volume défaut, lorsque la taille d'échantillon tend vers l'infini. Donc je l'ai écrit en version poissonienne. Le nombre moyen de points extrémaux, il y a une dichotomie qui est fondamentale. Cela va dépendre de la forme du convexe mère, suivant que le bord du convexe est lisse ou a des coins. Alors, je m'explique. Avant, je vais revenir ici sur ces deux asymptotiques, mais je voudrais vous remontrer les simulations. Alors, ce n'est pas forcément facile à voir, mais on va essayer. Ici, quand je cherche à approcher la frontière incurvée du disque, je constate que je vais avoir besoin d'un grand nombre de points extrémaux pour approcher le cercle par des segments. En revanche, ici, quand j'ai une zone plate, une zone plate, finalement, pour l'approcher, je vais avoir besoin que d'un ou deux segments. Un segment très proche va me suffire pour coller quasiment à la zone plate du carré. Et finalement, les points extrémaux, ils vont plutôt être dans les coins, là où j'ai besoin de tourner, parce qu'au moment où il faut que je tourne, il y a plein de petits segments qui vont s'ajouter là pour ensuite pouvoir coller à l'arête suivante du carré. Donc il y a un comportement radicalement différent entre ici, où je vais avoir finalement une répartition des points extrémaux à peu près homogène le long de la frontière, et ici, au contraire, je vais avoir très peu de points extrémaux le long des zones plates, et les points extrémaux vont s'agglutiner dans les coins de mon carré. Et finalement, on s'attend, puisque j'ai quand même des zones plates où j'en ai très peu, on s'attend à ce qu'il y ait moins de points extrémaux ici dans le carré que dans le disque. Et en fait, ce sont les résultats obtenus par Rigny et Zulanke. Alors, eux avaient fait ça en dimension 2. Ça a ensuite été généralisé par pas mal de monde. Donc, j'ai cité ici Reno, Rauschneider, Viehacker, il y a Fentranger, donc qui ont obtenu ensuite ces résultats en dimension quelconque. Il y a même des lois des grands nombres presque sûres. Ici, dans le cas lisse, donc dans le cas du disque, par exemple, j'obtiens une croissance qui est polynomiale, donc c'est-à-dire en le nombre de points, donc ici lambda, c'est le nombre moyen de points par unité de volume, à une certaine puissance, qui est ici d-1 sur d+1, inférieur à 1, c'est normal parce que j'ai moins de points extrémaux que de points au total. La dépendance en le convexe mère, elle n'intervient que via la constante ici, donc CDK, c'est une constante universelle qui ne dépend que de la dimension et de l'ordre des phases que je regarde. Et la dépendance, elle est ici, avec cette quantité assez étrange, qu'on appelle alors périmètre affine en dimension 2, R affine en dimension quelconque, qui est absolument pas intuitive, qui est l'intégrale le long du bord de la courbure gaussienne à la puissance 1 sur D plus 1. Bon, il se trouve que c'est cette quantité qui apparaît quand on fait l'asymptotique du nombre de points extrémaux pour un convexe lisse. Donc ici, j'ai une croissance polynomiale. Au contraire, ici, dans le cas polytop, j'ai une croissance logarithmique. Je vous avais dit, on s'attend à ce qu'il y ait moins de points extrémaux dans le cas où j'ai des coins, où le convexe mère est lui-même un polygone. Et en effet, il y en a moins. Le logarithme va beaucoup moins vite vers l'infini. Et la dépendance en K, elle n'intervient que ici, dans ce F de K, qui est le nombre de drapeaux de K. Et qu'est-ce que c'est un drapeau ? Ce n'est rien d'autre qu'une suite croissante de faces de K. Donc, c'est-à-dire une zéro face, un sommet, qui est contenu dans une arête, qui est contenu dans une deux faces, etc. Et je compte le nombre de drapeaux possibles, et ça me donne la constante ici qui est devant, avec un C' des K, qui est une constante universelle, indépendant que de la dimension et de l'ordre des faces. Voilà, et donc, si on veut ensuite compléter notre compréhension de ces variables aléatoires, bon, on a renoncé à obtenir une distribution exacte. En revanche, après l'espérance, on peut s'intéresser à la variance et à la loi limite renormalisée. Alors, il y a un certain nombre de gens, c'est à partir du début des années 2000 que les spécialistes se sont intéressés à la question au problème du second ordre, c'est-à-dire estimer la variance et être capable de montrer ce qu'on appelle un théorème central limite, c'est-à-dire avoir une loi limite quand je recentre ma variable aléatoire, donc je lui soustrais son espérance, et je renormalise par l'écart type. Donc c'est ce qu'on appelle en théorie de probabilité le théorème central limite. Cette variable va converger en loi vers une loi gaussienne centrée réduite. Donc ça, c'est un résultat qui a été montré dans le cas lisse, dans le cas polygonal, par un certain nombre de gens, dont Matthias Reitzner, Imre Barani, Van Voo. Et dans ces obtentions de théorèmes centraux limites, ils ont eu besoin d'estimer la variance. Et ce qu'ils ont obtenu, c'est que la variance, elle est coincée, elle est encadrée par deux constantes fois lambda puissance d moins 1 sur d plus 1, donc c'est-à-dire ici le même ordre de grandeur que pour l'espérance, dans le cas lisse. Dans le cas polytopal, on remplace le lambda puissance d moins 1 d plus 1 par le logarithme à la puissance d moins 1. En revanche, ces gens-là n'avaient pas de variance limite, c'est-à-dire qu'ils avaient simplement un encadrement de la variance et ils n'avaient pas montré qu'il existait une limite explicite lorsque je renormalise la variance par cette quantité ici. Est-ce que je suis capable de montrer qu'elle converge vers une certaine limite ? Et donc, c'est l'objet du travail que nous avons fait avec donc d'abord Joyukich, Thomas Schreiber dans le cas de la boule, puis Joyukich dans le cas d'un convexe lisse quelconque et dans le cas d'un polytope simple. Et nous avons obtenu des calculs explicites de variance limite pour ces nombres de points extrémaux, nombre de cas faces et volume défaut. Alors, sans surprise, les variances limites sont du même ordre de grandeur que les espérances limites. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement classique en probabilité dès qu'on fait des sommes de variables indépendantes. Si vous prenez n variables réelles indépendantes d'espérance, c'est variance finie. L'espérance de la somme des n premières va vous faire n fois l'espérance de x1, de la première variable, et la variance, ça va être n fois la variance de x1. Donc finalement, on retrouve un même comportement ici dans le cas des enveloppes convexes aléatoires. Alors évidemment, on n'est pas du tout dans la situation de somme de variables réelles indépendantes, parce que dans cette construction d'enveloppe convexe, j'ai beaucoup de dépendances. Le fait qu'un point soit extrémal ou non dépend de tous les autres points. Donc je ne vais pas pouvoir faire un calcul aussi simple me ramener à une somme de variables indépendantes. En revanche, finalement, il y a suffisamment d'indépendance quand même, il y a une dépendance mais qui est suffisamment locale pour que, asymptotiquement, la variance ait le même comportement que l'espérance, comme dans le cas de somme de variables indépendantes. Donc ça, c'est dans le cas lisse. Donc j'ai à nouveau la dépendance dans le convexe mère qui est cette bizarre R affine, qui est une intégrale de la courbe gaussienne à certaines puissances. Dans le cas d'un polytope simple, alors qu'est-ce que ça veut dire polytope simple ? Ça veut dire que, à transformation affine près, tous les coins sont des coins de cube. C'est ça que ça veut dire. Voilà, et donc dans ce cas-là, il se trouve que le nombre de drapeaux il est proportionnel au nombre de sommets de mon convexe mère, F0 de K. Voilà, et donc là, ce sont des résultats qui sont écrits dans le cas poisson, quand j'étais un nombre poissonien de points à l'intérieur du convexe mère. On peut parfois ce qu'on appelle dépoissonniser, c'est-à-dire revenir au cas où j'ai jeté un nombre fixé de points. À ce jour, on ne peut le faire que dans le cas lisse. Voilà. Alors, en soi, on peut ne pas être ébloui par un calcul explicite de variance limite pour ces problèmes-là. En revanche, le travail a un intérêt autre, qui est que pour calculer ces variances limites, on a en fait besoin de comprendre la géométrie zoomée, c'est-à-dire si je fais un changement d'échelle, si je me rapproche très très près des points, on a besoin de comprendre la géométrie de l'enveloppe convexe quand j'ai jeté un nombre infini de points. Et à la fin de cet exposé, je vais être capable de vous montrer un dessin de l'enveloppe convexe quand j'ai jeté un nombre infini de points. À quoi ça ressemble ? Évidemment, il faudra que j'étire un petit peu dans tous les sens l'espace pour vous le montrer. Donc, associé à ce résultat de variance limite, il y a un résultat de convergence de la frontière enveloppe convexe vers un nouveau processus qu'on a su expliciter. Voilà. Donc, dans le temps qui reste, il me reste, je vois, un petit peu plus de 20 minutes, je voudrais vous donner une indication de démonstration de ces calculs de variance limite. Donc, plus particulièrement, vous expliquer comment est-ce qu'on arrive à voir de près la forme de cette enveloppe convexe après avoir zoomé, quand j'ai jeté un nombre infini de points. Et j'espère un petit peu parler aussi des mosaïques de Voronoi, comme je vous l'ai promis au début. Alors, idée de démonstration. Alors, ce n'est pas un hasard si tout à l'heure, je vous ai un tout petit peu parlé des résultats qu'on connaît en théorie des probabilités sur les sommes de variables indépendantes statistiquement distribuées. C'est parce qu'en fait, on va décomposer les variables qui nous intéressent ici, les nombres de k face, le nombre de points extrémaux, si vous voulez, en prenant k égale 0. On va les réécrire comme des sommes de scores, c'est-à-dire qu'en fait, chaque point de l'ensemble de points que j'ai jetés au départ va apporter sa contribution. Donc si je prends le nombre de points extrémaux, le score d'un point x fixé, ça va être 1 s'il est extrémal, 0 s'il ne l'est pas. Le calcul de ce score dépend évidemment à la fois de ce point et de tout le reste de l'échantillon. Si je prends le nombre de cas face, bah, le score, ça va être 0 si le point n'est pas extrémal, s'il n'est pas sur la frontière. S'il est sur la frontière, bah, je vais prendre le nombre, ça c'est le nombre, c'est le cardinal de toutes les k-faces qui contiennent ce point. Mais ensuite, je risque de compter en trop certaines k-faces. Je vais compter les k-faces autant de fois que j'ai de sommets sur cette k-face. Et avec probabilité 1, chaque k-face comprend exactement k plus 1 point de mon échantillon de départ. Donc je vais diviser par k plus 1 pour ne pas compter en trop les k-faces. Voilà. Donc j'ai réécrit la variable qui m'intéresse comme une somme de scores. Alors, qui sont dépendants, mais qui ont des propriétés de dépendance locale qu'on va pouvoir estimer de telle manière qu'ensuite, on pourra faire le calcul de l'espérance et de la variance, et en particulier s'appuyer sur alors, des formules que je ne vous présente pas aujourd'hui, associées au processus ponctuel de Poisson, qui vous permettent de réécrire l'espérance et variance de sommes de ce type-là comme des intégrales d'espérance, de variance ou de covariance de score. Donc finalement, tout ça pour dire que pour ensuite passer à la limite quand lambda égale l'infini, je vais avoir besoin de redéfinir les scores dans le cas lambda égale l'infini. Alors après changement d'échelle, c'est-à-dire que je vais devoir expliquer comment je zoome pour faire ça. Et donc ça requiert, pour définir ces scores quand la taille d'échantillon est égale à l'infini, de comprendre la forme limite de mon enveloppe convexe aléatoire. Et il se trouve qu'il y a une approximation de cette forme limite qui est purement déterministe et qu'on appelle le corps flottant. Donc c'est l'objet de mon transparent suivant. Alors, j'ai besoin d'un accessoire. Alors, je vous montre ça sur... j'espère que vous voyez tous. Je vous montre ça sur cette boîte. Qui est convexe. Oui, elle est convexe. Alors, en quoi ça consiste ? J'introduis à l'intérieur de mon convexe mère un volume V d'eau. Bon. Et ensuite, qu'est-ce que je fais ? Je bouge le convexe mère en laissant l'eau au contact de la frontière. D'accord ? Voilà, donc je fais comme ça. Et je regarde quelle est, à l'intérieur du convexe mère, la partie qui n'a pas été mouillée. Et la partie qui n'a pas été mouillée, donc elle dépend du volume d'eau que j'ai fixé, c'est ce qu'on appelle le corps flottant. Voilà. Donc ça, c'est une manière imagée de vous le présenter. Après, il y a évidemment une manière plus théorique de l'exprimer, mais c'est exactement la même chose. Donc pas de crainte sur cette définition, c'est exactement ce que je vous ai montré. Pour chaque point, on se donne le plus petit volume possible d'intersection du convexe mère avec un demi-espace qui contient ce point. Et ensuite, je prends tous les points qui sont tels que cette fonction, ce plus petit volume, dépasse T. Mais c'est exactement ça que ça veut dire. Donc vous voyez ici que finalement, la partie mouillée, il y en a plus dans les coins qu'il n'y en a au milieu. D'accord ? Là, c'est plus mouillé dans les coins. En revanche, si j'avais pris une boule, on s'attend à ce que la partie mouillée ce soit exactement le complémentaire d'une boule plus petite. Donc la réponse, c'est que le corps flottant dans les deux cas, alors le voilà, il vient, voilà. Alors le corps flottant dans le cas d'une boule, c'est une sous-boule, c'est encore une boule mais de rayon plus petit, et la différence de rayon ici, elle est de l'ordre. Alors si j'ai pris le volume d'eau qui est 1 sur lambda, je vais expliquer pourquoi dans un instant, elle est de l'ordre de lambda puissance moins 2 tiers. Alors pourquoi je prends le volume d'eau qui est 1 sur lambda ? Bah parce qu'en fait, c'est exactement le cas critique qui va me donner mon enveloppe convexe aléatoire. Alors évidemment, pas exactement l'enveloppe convexe aléatoire, mais ça va être une bonne approximation, purement déterministe, pas du tout aléatoire, de l'enveloppe convexe aléatoire. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai pris un volume d'eau 1 sur lambda, puisque j'ai lambda point par unité de volume, c'est exactement le moment... Alors si j'en avais pris un petit peu moins, j'aurais eu, avec grande proba, 0 point. À l'intérieur de ma zone avec de l'eau. Si au contraire j'avais pris une zone avec de l'eau qui, avec un T qui était plus grand que 1 sur lambda, au contraire j'aurais eu une infinité de points. Donc 1 sur lambda, c'est exactement le cas où je vais m'approcher au mieux des hyperplans d'appui de mon enveloppe convexe aléatoire. D'accord ? Des faces de mon enveloppe convexe aléatoire. Donc j'affirme, et je vais l'expliquer dans le transparent suivant, que ce corps flottant, en prenant le volume d'eau qui est 1 sur lambda, il est proche, en un sens à préciser, de l'enveloppe convexe aléatoire qu'a lambda. Alors, dans le cas, donc là ici, sur du transparent qui reste, je vais parler uniquement du cas du disque et du carré. Alors, le carré, je vais lui régler son compte tout de suite, je vais le transformer en un cadran, parce que je dis que finalement, on peut montrer, il y a du travail, mais on peut montrer que pour calculer des variances limites, ce qui se passe dans les coins, c'est asymptotiquement indépendant. Bon, il y a du travail, mais on peut le montrer. Ce qui se passe le long des bords, c'est négligeable. Et donc, finalement, la seule chose qui m'intéresse, c'est ce qui se passe dans les coins. Donc, je vais regarder ce qui se passe dans un coin, donc dans un cadran. Et ensuite, pour avoir tout le carré, je multiplierai par 4. C'est ça que je vais faire. Et ça marche ensuite pour n'importe quel polytope simple. Voilà, et je vous avais dit, ben, finalement, il y a plus d'eau dans le coin. Et c'est ce qu'on voit là. En fait, vous voyez que la frontière de mon corps flottant, surprise, c'est une hyperbole. Donc d'équation du type, si les deux coordonnées c'est x et y, c'est x fois y, ou x1 fois x2, si je prends x1, x2, je crois que dans le transparent suivant, c'est x1, x2, égale constante. Voilà. Alors je vous ai dit, ce corps flottant, il approche bien qu'à lambda. Donc ça, c'est une idée qui vient de Imre Barani et Larman, qui date de 88. Et alors, donc au travers des années, donc ça va jusqu'en 2010, il y a des résultats qui expliquent pourquoi ce corps flottant est une bonne approximation de mon enveloppe convexe aléatoire. Donc déjà ici, le volume du complémentaire du corps flottant est une bonne approximation du volume défaut moyen de l'enveloppe convexe aléatoire. Là, pour la variance aussi, il y a une estimée. Et surtout, il y a ce qu'on appelle, alors j'ai gardé le mot anglais, parce que c'est bien imagé, le sandwiching. On est capable d'inclure la frontière dans l'enveloppe convexe aléatoire entre deux corps flottants avec grande probabilité. Donc là, j'ai écrit l'événement contraire. Le fait que la frontière dans l'enveloppe convexe aléatoire ne soit pas contenue dans le sandwich. Donc ça arrive avec une probabilité qui tend vers zéro quand lambda, l'intensité, tend vers l'infini. Et mon sandwich, finalement, j'ai deux volumes d'eau qui sont du même ordre. C'est 1 sur lambda avec des logs au dénominateur ou au numérateur. Voilà. Donc j'ai moyen, avec grande proba, de coincer mon enveloppe, la frontière de l'enveloppe convexe aléatoire entre deux corps flottants qui, eux, sont purement déterministes. Et donc, je vous ai dit, j'aimerais bien définir des scores à l'infini en faisant un zoom, en faisant un changement d'échelle. Donc c'est là que je vais construire mon changement d'échelle. Alors, à la limite, la définition explicite du changement d'échelle est sans doute moins importante que les règles que je voudrais vous décrire ici pour le construire. Alors finalement, j'ai compris que ces corps flottants, ils vont me fournir une coordonnée de profondeur à l'intérieur de mon convexe mère. Donc pour ce qui est du disque, c'est assez simple, ça va être 1 moins la distance à l'origine. D'accord ? Donc je vais me servir de la distance radiale, et ça me donnera une profondeur par rapport à la frontière du disque. Donc il va falloir que je la renormalise, et je vais la renormaliser par lambda puissance 2 tiers, ce que je vous ai dit tout à l'heure, que le corps flottant, il était à distance à peu près lambda puissance moins 2 tiers de la frontière du disque. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, ce lambda moins 2 tiers, ça me dit en particulier que du coup, le nombre de points extrémaux, puisqu'il y a lambda point par unité de volume, et que j'ai à peu près une distance de mon enveloppe constellatoire à la frontière qui est lambda puissance moins 2 tiers, ça me dit que le nombre de points extrémaux, c'est lambda fois lambda puissance moins 2 tiers, c'est-à-dire lambda puissance 1 tiers. Donc ça rejustifie a posteriori le résultat de Reyni-Soulanque que je vous ai présenté au tout début, le lambda puissance d moins 1 sur d plus 1, qui fait lambda puissance 1 tiers pour d égale 2. Voilà. Donc ça, c'était dans le cas du disque. J'ai une coordonnée de profondeur qui est 1 moins la distance à l'origine. Dans le cas du cadran, c'est un petit peu plus étrange. Finalement, la coordonnée de profondeur, ça va être sur quelle hyperbole je me trouve. J'ai toute une famille d'hyperboles du type x1, x2 égale constante, enfin plus exactement lambda x1, x2 égale constante, parce que j'ai pris les hyperboles qui correspondent à une quantité d'eau qui est 1 sur lambda ou constante sur lambda. Et donc ça, ça va être ma profondeur. Donc sinon, j'ai ensuite une coordonnée spatiale, parce qu'une fois que j'ai défini sur quelle frontière de corps flottant je me trouve, il faut que je dise où je me trouve sur cette frontière. Donc j'ai une seconde coordonnée, une fois que j'aurai fixé la profondeur, qui est la coordonnée spatiale pour pouvoir dire où je me trouve sur, par exemple, le cercle qui est à l'intérieur de mon disque. Et là, pareil, sur l'hyperbole, où est-ce que je me trouve sur l'hyperbole. Et enfin, il faut que je fasse mon zoom de telle manière qu'à la fin, donc le problème, mon grand problème depuis le début, c'est que plus je jette des points, moins j'y vois quelque chose. Si vous avez vu mes simulations, il fallait vraiment que je me rapproche très très près de la frontière pour voir ce qui se passait. Et ça, c'est parce que par unité de volume, j'ai un nombre de points qui tend vers l'infini. Donc il faut que je zoome, que j'écarte l'espace de telle manière qu'à la fin, j'ai un nombre borné de points par unité de volume. Si je suis toutes ces règles, eh bien, j'ai un moyen exact de construire une transformation de changement d'échelle pour le disque et pour le cadran qui vont marcher, qui vont me donner un dictionnaire et je vais pouvoir retraduire toutes les notions associées à mon enveloppe convexe pour lambda égale l'infini après transformation de changement d'échelle. Et donc, c'est le dessin suivant. Alors, ce n'est pas tout à fait le dessin suivant parce que auparavant, j'ai juste un tout petit truc à vous dire qui va me permettre d'avoir un dessin parfaitement complet ensuite pour vous montrer l'effet du changement d'échelle. Alors, ce petit truc à vous dire, c'est que les points extrémaux, donc les points qui sont sur la frontière d'un plan excellatoire, j'ai une manière de les caractériser duale. Alors, j'ai une première manière qui consiste à dire, OK, ils se trouvent sur un hyperplan d'appui, c'est-à-dire un hyperplan dont l'intersection avec le nuage de points est ce point exactement. Il y a une manière duale de caractériser les points extrémaux qui consiste à construire pour chaque point ce qu'on appelle un pétale. Alors, vous allez comprendre un instant pourquoi je parle de pétale. Son pétale, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des points de tangence des courbes, alors que c'est les frontières des corps flottants, avec les droites qui contiennent ce point X. Alors, si je construis ça dans le cas du disque, en fait, c'est exactement, si je fixe un point bleu ici, c'est exactement son pétale, c'est le cercle de diamètre segment entre l'origine et ce point bleu. Donc, je trace tous ces cercles et j'obtiens une fleur. Donc, c'est pour ça que je parle de pétale. Et vous voyez qu'il y a des pétales grisés ici qui correspondent aux points qui ne sont pas extrémaux. Et ceux qui sont là, c'est exactement ceux qui correspondent aux points extrémaux, ils sont rouges. Et en fait, ce qui est surprenant, c'est que je suis capable de faire la même chose dans le cadran. Alors, les pétales sont des hyperboles. C'est un peu plus étrange comme dessin, mais de la même manière, j'ai des hyperboles grisées qui correspondent ici aux points qui ne sont pas extrémaux. Voilà, maintenant, muni de cette notion de pétale, je peux totalement construire mon dictionnaire. L'effet du changement d'échelle, eh bien, ça, c'est le dessin de départ. L'enveloppe convexe en vert, les pétales en rouge, les points extrémaux en bleu et la frontière du disque ici en noir. J'applique mon changement d'échelle. La frontière du disque, elle s'aplatit complètement. Elle devient l'axe des X. L'origine, elle s'enfuit à l'infini, tout en haut. Tous les rayons qui partent du cercle vers l'origine, ça devient des verticales. Alors, plus amusant, les pétales rouges deviennent des paraboles. Donc, c'est des translatés de la parabole pi avec la flèche vers le haut ici. Et les segments qui constituent la frontière dans l'enveloppe convexe aléatoire, ça va devenir des portions de paraboles tournées vers le bas, donc des translatés de cette parabole pi avec la flèche vers le bas. Voilà, et donc vous constatez que là, c'est mon dessin, c'est la frontière de l'orbe convexe quand j'ai jeté un nombre infini de points. Voilà à quoi elle ressemble. Alors évidemment, j'ai dû étirer l'espace, mais ça ressemble à ça. Et donc là-dedans, je peux définir un score. J'ai un processus limite de points, qui est en fait d'intensité 1 dans ce demi-espace supérieur. Et là-dessus, je peux faire totalement l'asymptotique et vous dire voilà ce que c'est que le score à l'infini. Et du coup, je peux en déduire les espérances et variances limites. Ça marche pareil dans le cas du cadran. Alors, c'est évidemment un peu moins joli. Hein. Les paraboles, elles sont remplacées par des translatés de de courbes qui ont pour équation ceci, log de CH de V sur racine de 2. Bon, c'est un petit peu moins joli. Mais on a exactement le même principe. La frontière en vert est ici, du coup, envoyée sur des portions de... Alors, c'est presque des cônes. C'est pas loin d'être des cônes, c'est des pseudo-cônes renversés. Et les pétales sont envoyés sur des pétales rouges, qui sont des cônes dans l'autre sens. Voilà. Et donc, de la même manière, voilà le dessin de l'enveloppe convexe quand j'ai jeté un nombre infini de points dans le cadran. Alors, il me reste 5 minutes, je crois. Oui. Bon, j'ai même 6 minutes. Alors, dans le temps qui me reste, je voudrais donc me cantonner à la dimension 2 et vous parler des mosaïques de poissons Voronoi. Alors, je sais que c'est quelque chose... qui vous est déjà familier suite aux deux premiers cours de Jean-Daniel. Bon, néanmoins, j'ai quand même prévu de refaire une définition ici, faire un très très rapide tour d'horizon des premières questions qu'on peut se poser sur les mosaïques engendrées par mosaïques de Voronoi engendrées par un processus de poisson homogène. Et ensuite, je me concentrerai sur un problème particulier, qui est la description d'une cellule de poisson Voronoi autour d'un point isolé. On va voir ce que ça veut dire. Alors, comment construit-on une mosaïque de Voronoi ? C'est une construction purement déterministe. Si je me donne donc, à nouveau un ensemble localement fini de points, donc je me suis restreint à la dimension 2, bien qu'on puisse le faire en toute dimension, hein. Donc cet ensemble de points, je l'appelle l'ensemble des germes, et chaque germe engendre une cellule. Et cette cellule, qu'est-ce que c'est ? C'est l'ensemble des points du plan qui sont plus proches du germe X que de tous les autres pour la distance euclidienne. Donc là, ici, c'est la distance euclidienne. Voilà, donc c'est-à-dire, si j'ai un point noir fixé, je prends la zone des points du plan qui sont plus proches de ce point noir que de tous les autres. C'est sa zone de domination. Donc j'obtiens du coup une partition du plan en polygones convexes qui sont bordés par des portions de médiatrices entre mes points noirs. Donc j'ai chaque médiatrice de segment entre ce point noir et un autre point noir peut ou ne peut pas générer une portion de segment qui sera une portion de la frontière de sa cellule. Voilà. Ensuite, l'aléa, il vient d'où ? Il vient de l'ensemble des points que j'ai jetés. Je prends, et c'est là qu'on voit l'intérêt, d'avoir un ensemble de points aléatoires qui soit défini sur tout le plan tout entier. Donc, je me donne un processus de poisson d'intensité lambda. Je jette ces points et ensuite, je construis la mosaïque de Voronoi. Là, ensuite, c'est une construction déterministe. Voilà. Alors, en fait, à ma connaissance, le premier qui a construit une mosaïque de Voronoi, ça remonte, c'est René Descartes en 1644. Et donc, c'est son dessin, c'est de lui, celui-ci à droite. Son problème était de comprendre la forme des galaxies dans l'univers. Et donc, son modèle était, il y a des centres d'expansion et ils commencent à croître tous en même temps, à vitesse constante, de manière isotrope, dans toutes les directions. Donc, vous voyez ici ces cercles concentriques. Et cette expansion s'arrête à partir du moment où la matière qui provient d'un centre d'expansion rencontre la matière qui provient d'un autre centre d'expansion. Pardon. Et donc, du coup, la matière, les galaxies, elles se retrouvent aux frontières des cellules de Voronoi. Voilà. Et ensuite, engendrer des mosaïques de Voronoi avec des points aléatoires, c'est quelque chose qui sert beaucoup depuis quelques décennies. Je citerai simplement l'exemple de télécommunications. Les germes, ça peut être des commutateurs téléphoniques placés aléatoirement au sein d'une ville, et où les cellules de Voronoi, ce sont les zones de desserte des commutateurs téléphoniques dans un réseau câblé télécommunication. Voilà. Et après, on peut utiliser ce modèle pour calculer des coûts de communication au sein d'un réseau. Alors, les premières questions sur ce modèle de Voronoi sont les suivantes. J'ai donc une population infinie de cellules Et je voudrais être capable de faire des estimés statistiques, c'est-à-dire, je voudrais être capable de dire, OK, en moyenne, une cellule se comporte à peu près comme cela. Donc ça veut dire qu'il faut que je sois capable d'extraire au hasard une cellule de ma population infinie. Évidemment, il n'y a pas de moyen de choisir au hasard parmi une infinité de cellules, une en particulier. En fait, on peut le faire via... Alors, il y a plusieurs méthodes que je n'ai pas le temps de développer, mais ici, j'en ai donné une, qui est une technique qui est due à Palm, et qui vous dit qu'en faisant, en prenant uniquement les cellules, donc F, c'est une fonction quelconque fixée, en prenant uniquement les cellules dont le germe est dans un borélien B fixé, en renormalisant par le nombre de points moyens à l'intérieur de ce borélien, eh bien, il se trouve que ce calcul ne dépend pas du borélien choisi, et ça, cela provient de la stationarité de mon processus poissonien, c'est-à-dire de l'invariance par translation de la loi du processus poissonien que j'ai jeté. Et bien, du coup, ça me permet de définir l'espérance de cette fonctionnelle F appliquée à une certaine cellule qu'on appelle la cellule typique. Donc, en fait, on a un moyen probabiliste de définir une cellule piochée au hasard sur la population infinie de cellules. Donc, dans la suite, je vais parler plus précisément de sa cellule typique. Il se trouve qu'il y a un résultat qui est dû à Slimniak qui vous dit que, en fait, cette cellule typique, ce n'est pas la peine de se prendre la tête. Il suffit de rajouter un germe en l'origine, donc déterministe, de construire la cellule associée à l'origine, donc c'est-à-dire je prends toutes les médiatrices entre l'origine et les autres points noirs, et je prends la zone qui est délimitée par toutes les demi-plans bordés par ces médiatrices qui contiennent l'origine. Voilà, donc ça me donne cette cellule-là. Et bien cette cellule-là, qui n'est pas une cellule de la mosaïque de départ, parce que j'ai rajouté l'origine parmi les germes, cette cellule-là, il se trouve qu'en loi, elle est égale à la cellule typique de ma mosaïque de départ. C'est un miracle qui est extrêmement pratique ensuite pour faire des calculs sur la cellule typique. Et en particulier, par exemple, le nombre de sommets de cette cellule typique, en moyenne, est 6. Pourquoi ? Parce que si vous regardez la mosaïque, chaque sommet, il est trivalent, c'est-à-dire il est contenu dans exactement 3 cellules. Et en fait, chaque sommet est soit le point le plus bas d'une cellule, soit le point le plus haut. Donc, j'ai 2 fois plus de sommets que j'ai de cellules. Chaque sommet est contenu dans 3 cellules, donc 3 fois 2 égale 6. Voilà, alors ensuite, j'en viens un petit peu, j'ai quelques minutes ou... Donc désolé pour le retard, je me dépêche, mais je voudrais juste vous présenter quand même la dernière simulation. Donc qu'est-ce que ça signifie appartenir à cette zéro cellule ? Donc c'est-à-dire la cellule associée à l'origine quand je l'ai rajoutée à l'ensemble des germes. Eh bien, si je fixe un corps convexe K avec l'origine au son intérieur, être dans la cellule associée à l'origine, ça veut dire que l'origine est le point le plus proche de tous les points de K. Donc ça veut dire que si je prends par exemple ce sommet-là, il n'y a pas de point plus proche que l'origine de ce sommet-là, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de point dans ce disque centré en ce sommet-là et qui contient l'origine sur sa frontière. Et si je construis tous ces disques-là, je récupère la fleur de tout à l'heure, c'est le printemps, encore une fleur, et donc c'est la réunion voilà, de ces disques. Et du coup, bah, dire que K est contenu dans la cellule associée à l'origine, c'est dire qu'il n'y a pas de point à l'intérieur de ces disques, et comme le nombre de points qui tombent dans cette réunion de disques est poissonien, de moyenne lambda fois l'air, eh ben, la probabilité qu'il n'y en ait pas, c'est exponentielle moins lambda fois l'air de cette fleur. Et conditionnellement, si je conditionne par le fait que ce convexe est contenu dans la cellule associée à l'origine, eh bien, il suffit que je retire tous les points qui sont dans la fleur et que je jette les germes à l'extérieur de la fleur. Donc j'en viens maintenant à mon problème, je vais être assez rapide, désolé. Donc je me donne un corps convexe fixé, l'origine à l'intérieur du corps convexe, je jette les points du processus poissonien de telle manière que ce corps convexe soit contenu dans la cellule associée à l'origine. Voilà, donc ça me donne la mosaïque de Voronoi de telle manière que là, ce corps convexe K soit contenu dans la cellule associée à l'origine. Et le problème, c'est étudier asymptotiquement cette cellule, c'est-à-dire lorsque j'ai imposé dès le départ que K, que le convexe mère, serait contenu dans la cellule associée à l'origine. Alors pourquoi ça m'intéresse ? Parce que déjà ça veut dire que j'ai une inhomogénéité, c'est-à-dire que je n'ai pas de point dans une zone donnée du plan. Donc c'est une manière d'introduire une inhomogénéité sur mon modèle qui était au départ parfaitement homogène. Ça me permet d'approcher le corps convexe K par l'extérieur, parce que maintenant j'ai un polygone qui est plus grand que K lui-même, et on s'attend, lorsque le nombre de points à l'extérieur va tendre à l'infini, à ce qu'il se rapproche de plus en plus du convexe mère, mais par l'extérieur, contrairement à tout à l'heure, où l'enveloppe convexe approchait le convexe mère par l'intérieur. Voilà, et enfin, il y a une autre motivation qui est d'aller plus loin qu'une conjecture du Hackendall qui vous dit que les grandes cellules d'une mosaïque de Poisson-Voronoi sont proches de la forme circulaire. Et donc là, c'est regarder des grandes cellules auxquelles on imposerait de contenir une forme en particulier. Voilà, alors je vais très vite sur les résultats. Je pense que c'est plus amusant de voir les dessins. Donc voilà, là j'ai pris l'exemple où mon convexe mère, c'est l'ellipse, et je construis la cellule sociale origine lorsque j'impose que l'ellipse soit contenue dans la cellule sociale origine. Alors on voit presque pas, mais la cellule est un tout petit peu plus grande que l'ellipse, vous le voyez ici par exemple, elle dépasse un petit peu. Voilà, et donc on est capable de calculer des espérances limites pour l'aire des faux, le périmètre des faux et le nombre de sommets de cette approximation de l'ellipse à l'extérieur. Donc là, ça marche à nouveau, ça marche pour tout convexe, mais j'ai dichotomie, soit le convexe est à bord lisse, soit c'est lui-même, le convexe mère est un polygone. Et à nouveau, j'aurai des termes logarithmiques ou non qui vont apparaître. Donc là, j'ai une croissance polynomiale du nombre de sommets. En revanche, là, j'ai une croissance logarithmique dans le cas polygonal. Donc là, j'ai approché le carré par l'extérieur, donc j'ai ici une cellule de Voronoi qui est un petit peu plus grande que le carré, on le voit à certains endroits. Voilà. Et je termine ce que je tiens à montrer les dernières simulations, qui sont les plus belles, à mon avis. On peut se poser le problème inverse. Maintenant, j'ai vidé une fleur là, dans l'exemple d'avant pour imposer que la cellule associée à l'origine contienne un convexe mère donné. Si maintenant je vide un domaine quelconque sans savoir à l'avance la forme que va avoir la cellule contenant l'origine, la cellule associée à l'origine, pardon. Donc je fixe un domaine D, j'enlève tous les points du processus qui sont dans D et je regarde la cellule associée à l'origine. Donc par exemple, mon domaine D ici, c'est le carré, j'enlève tous les points du carré, je mets de plus en plus de points à l'extérieur, à quoi va ressembler la cellule associée à l'origine? Eh bien, elle va ressembler à ce poste de télévision ancestral, ici, que vous voyez ici, et c'est en fait le corps convexe qui est telle que sa fleur associée est la plus grande possible qu'on puisse inclure dans le domaine qu'on a vidé. Donc c'est aussi ce qu'on appelle le domaine anti-orthotomique associé à D, ce que j'ai trouvé dans un vieux grimoire. Voilà, donc on peut montrer que la cellule tend en proba pour la métrique de Hausdorff vers ce nouveau convexe. On a à nouveau des calculs explicites d'espérance moyenne pour R, périmètre et nombre de sommets. Et voici quand même les dessins, ça valait le coup. Voilà ce qui se passe quand j'ai enlevé tous les points d'une ellipse. Je vais récupérer cette forme-là, une espèce d'œil, voilà, avec plein de choses qui restent à comprendre ici sur la structure arborescente ici de ces cellules qui rentrent à l'intérieur du domaine que j'ai vidé. Là, donc, j'obtiens mon poste de télévision, comme je l'ai dit, quand j'ai vidé le carré. Voilà, et donc il est temps de terminer. Je vous remercie pour votre attention.